Bonsoir à tous. Nous parlons dans la tribune de presse de ce vendredi 16 juin 2017 des évasions dans la prison de Kangbaï à Beni dans le nord Kivu et au parquet de Matete ici à Kinshasa. Et puis en marge de la commémoration du 10e anniversaire de l'assassinat de Serge Maheshi, journaliste à Radio Kapi le 13 juin dernier à Bukavu, le problème de la sécurité du journaliste dans l'exercice de ses fonctions pose problème. Ce sont les deux thèmes de la tribune de presse que Berry Franklin Luchaka présente ce soir, et nous recevons dans ce studio Nico Faik Mbikai. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Berry.
Vous êtes collaborateur au groupe de presse Le Monde et Top Média des journaux paraissant à Kinshasa. Voilà. Jean-Claude Binoumoila, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de publication du journal Climat Tempéré, un hebdomadaire paraissant ici à Kinshasa. Et au téléphone, Baba Isaac Allongé, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste indépendant basé à Mbujimayi. Bonsoir aussi à Héritier Sidiakala qui assure la mise en onde de cette édition. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans cette émission. Et pour commencer, on va feuilleter la presse écrite de Kinshasa avec vous, Guy Maté. À vous, je dis aussi bonsoir.
Bonsoir. La problématique des évasions massives dans les prisons congolaises, le 10e anniversaire de l'assassinat de Serge Maheshi, ainsi que la plainte en Belgique contre Thabo Mbamba, ont défrayé la chronique cette semaine. La presse kinoise a aussi fait état de la visite de Jean-Pierre Lacroix en RDC et de Joseph Kabila à Tshikapa. Ainsi, l'observateur note que la série noire d'évasion des prisons se poursuit en précisant que le parquet de Matete et son cachot attaqués par des assaillants. Ce quotidien informe que les assaillants, qui étaient une vingtaine d'hommes armés, ont d'abord attaqué l'état-major du commissariat d'Imoamba avant de s'attaquer au parquet de grande instance de Matete. Ce quotidien fait état de la mort de 2 personnes, 2 blessés, 17 personnes évadées et d'importants dégâts matériels. Évasion à la prison de Beni, 900 détenus dans la rue, informe de son côté la tempête des tropiques. Ce quotidien rappelle qu'après la prison centrale de Makala, Kasangulu, Matete, c'est maintenant le tour de Beni où plus de 900 détenus se sont évadés en plein jour de la prison de Kangwai. Et précise que tous les prisonniers sont partis sauf les militaires incarcérés. Pour ces tabloïdes, les évasions en RDC prennent désormais les allures d'un feuilleton ou d'une série télévisée répartie en épisodes mis en scène par un professionnel dans l'ombre. Assassinat de Serge Maheshi, Radio Kapi.net rappelle que cela fait 10 ans depuis l'assassinat à Bukavu de Serge Maheshi, journaliste de Radio Kapi. Ce site annonce que la section Sud-Kivu de l'Union nationale de la presse congolaise exige que les assassins de la victime soient démasqués et punis conformément à la loi. Selon son président, le procès de Serge Maheshi était bâclé, conclut ce site. Au sujet de l'affaire du ministre de la Justice, le phare note Thabo Mbamba, rattrapé par son passé au RCD Goma. À l'époque du crash du Boeing 727, renseigne ce journal, Thabo Mbamba avait déclaré que l'avion transportait des militaires à son bord et par la suite, les responsables de la compagnie aérienne CAL ont démenti cette nouvelle et soutenu qu'il n'y avait que des civils à bord de cet appareil. En rapport toujours avec ce sujet, le potentiel titre, la traque continue Thabo Mbamba, visé par la justice belge. Le tabloïd annonce qu'une victime vient de tomber relativement à la crise politique que traverse la RDC. Il s'agit du tout-puissant Alexis Thabo Mbamba. Il est pris par les mailles de la justice belge qui a exhumé un vieil avion de ligne abattu par les rebelles de l'ex-RCD Goma à Kindu. Sous le chapitre de la visite de Joseph Kabila à Tshikapa, la tempête des tropiques annonce que les retombées de sa visite dans la province du Kasaï, Joseph Kabila inaugure une usine moderne de captage d'eau à Tshikapa. La presse a aussi fait état du séjour en RDC du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Jean-Pierre Lacroix a déclaré que l'ONU va améliorer l'efficacité de ses réponses aux défis sécuritaires en RDC.
Merci aussi à vous, Guy Maté. Dans l'actualité de la semaine, vous l'avez suivi, et vous le savez d'ailleurs, le ministre d'État et ministre de la Justice est déféré devant la justice belge pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Confirmation faite hier, jeudi, par la Ligue contre la corruption et la fraude dans un point de presse à Bruxelles. Nico, vous avez suivi cette actualité. Comment vous l'avez analysée?
Merci beaucoup, Berry, pour l'opportunité que vous avez bien voulu nous accorder ces jours. Bonsoir aussi à tous les auditeurs de la radio Kapi. Bien sûr, tous avons appris la nouvelle de l'ouverture de l'information judiciaire lancée contre le ministre ayant en charge de la justice et le garde des Sceaux de la République démocratique du Congo par la justice belge. À ce stade, je pense que nous ne pouvons pas faire de commentaires parce que c'était déjà une affaire que beaucoup de Congolais avaient déjà oubliée et que la justice belge a estimé bon de déterrer les dossiers plus de 15 ans après, ne maintenait pas rigueur sur le nombre d'années.
Il n'y a pas de problème.
Oui, mais la question que je me pose aussi est celle de savoir pourquoi la justice belge a attendu depuis tout ce temps, au moment où il y a bruit entre Kinshasa et Bruxelles, et c'est-à-dire, ça me laisse aussi, je risque de comprendre que ces gens de la communauté internationale, ce sont des profiteurs situationnistes, ce sont des gens qui, lorsque vous êtes en accord avec eux, enterrent certains dossiers, et lorsque vous êtes en désaccord avec eux, ils vont déterrer les dossiers qu'ils avaient gardés dans leur tiroir. Mm-hmm. Bien sûr, il y a la présomption d'innocence, les droits évoluent, il y a aussi la présomption de culpabilité. Nous ne pouvons pas faire beaucoup de commentaires dans la mesure où nous n'avons pas beaucoup d'éléments et il appartient à celui qui allègue le fait d'en apporter la preuve.
Merci.
Comme la justice a estimé bon d'ouvrir une information, c'est-à-dire elle estime qu'elle dispose quelques éléments ou bien quelques indices de culpabilité, mais à ce stade où nous sommes, nous ne saurons faire trop de commentaires, laissons la justice belge faire son travail, mais que cette justice belge, qu'elle ne soit pas une justice à plusieurs vitesses, elle attaque lorsque les relations ne sont plus au beau fixe, elle n'attaque pas lorsque les relations sont au beau fixe.
D'accord. Jean-Claude, est-ce que vous partagez le même avis que Nico?
Non, bon, le temps de la justice n'est pas le temps civil. Hein. Il y a des affaires vieilles de 50 ans dont pour lesquelles on réunit les preuves
petit à petit.
Et je pense que.
Mais Nico est en train de dire que apparemment la Belgique n'a profité du fait que il y a une sorte de brouille entre Kinshasa et la communauté internationale.
Oui, le timing de l'opération peut facilement le laisser croire, mais ce n'est pas la seule explication. Je pense que le devoir de mémoire vis-à-vis des victimes nécessite que tout le monde attende le verdict de l'instruction. Mais pour ce qui est de Tambwe Mwamba, c'est je pense le premier acte du bras de fer qui oppose désormais la communauté internationale avec.
Mais quand même, il faut quand même souligner que Tambwe Mwamba est couvert par les immunités diplomatiques. Comment expliquez-vous quand même qu'il y ait une plainte en dépit de ces immunités?
Non, mais on a vu le président répondre. Il n'est pas encore inculpé, il est invité. Mm-hmm. Il est invité à se mettre à la disposition de la justice. Mm-hmm. Et je pense que Tambwe Mwamba qui figurait sur la liste de probables autorités congolaises qui devaient être sanctionnées par l'Union européenne, son nom a été retiré à la dernière minute. Je pense que la justice voulait lui accorder l'occasion parce que s'il était sanctionné, il ne pouvait plus voyager en Belgique mm-hmm. ou en France ou à l'Union européenne. Et le statut de voyageur permettait à la justice finalement d'attirer Tambwe Mwamba sur les pièges qu'on lui avait tendus, et maintenant il est là, il doit...
Donc il est tombé dans le piège.
Il est tombé effectivement dans les pièges, il doit se mettre à la disposition de la justice, mais cette affaire, lorsqu'on aura suffisamment secoué l'arbre, il y a beaucoup...
L'arbre, vous parlez du gouvernement congolais?
Oui, lorsqu'on aura suffisamment secoué l'arbre, vous verrez que le microcosme politique sera affecté, parce que dans cette affaire, nous voyons aujourd'hui beaucoup d'acteurs politiques, anciens membres de la rébellion du RCD Goma qui sont aux affaires aujourd'hui. Je pense à Lambert Mende lui-même, je pense le ministre Azarias Rubéroy, mm-hmm. et plein de généraux.
En fait, ils sont nombreux, quoi.
Oui, ils sont nombreux qui risquent d'être affectés par l'instruction de cette affaire.
D'accord. Alors, Baba Isaac, pensez-vous qu'avec cette plainte déjà déposée à la justice belge pourra aboutir à une mise en accusation du ministre d'État Alexis Tambwe Mwamba?
Estimés confrères, je vous apprends que les latinistes disent « scriptum manent, verbum volant ». C'est-à-dire que ce qui est écrit reste écrit définitivement, et ce qui est parlé peuvent s'envoler. Donc, les plaignants contre le ministre de la Justice ont introduit leur plainte il y a longtemps au parquet de Bruxelles, Maintenant, les Belges disent ce matin qu'ils n'ont pas affaire aux Congolais puisque Thabo Mbeki a la nationalité belge. Ils se plaignent contre leurs frères et la justice belge doit agir tranquillement. C'est ainsi que il y a à boire à manger dans ce dossier. Il faut attendre que l'audience soit fixée pour être précisément informé sur ce que va devenir ce procès.
C'est après ce commentaire que nous allons rentrer dans notre premier dossier du jour qui concerne les évasions. Alors, deux maisons carcérales ont été attaquées le week-end dernier à Beni, au Nord Kivu, et dans la commune de Matete, ici à Kinshasa, par des inconnus armés. Si une enquête a été ouverte pour identifier les assaillants à Kinshasa, à Beni, le gouverneur avait instauré tout de suite, dès le dimanche même, un couvre-feu à partir de 18h30. Plus de détails avec vous, Jacques-Yves Molima.
C'est à Kinshasa que les cas d'évasion ont été signalés en premier. Aux premières heures de samedi 10 juin, une centaine d'assaillants, à en croire les autorités pénitentiaires, ont attaqué simultanément le parquet des grandes instances de Matete et les bureaux de la police du district de Moamba. Selon les autorités judiciaires, le bilan fait état non seulement des 17 évadés et 2 morts, mais aussi des dégâts matériels importants, dont l'incendie du parquet des grandes instances de Matete et le bureau de la police du district. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de ces attaques et éventuellement poursuivre les auteurs. Si à Kinshasa l'attaque a eu lieu aux premières heures du samedi, à Beni, c'est en pleine journée que l'attaque contre la prison centrale de Kangbawi de Beni est intervenue aux environs de 15h30 locales, pour être plus précis. Et ici, c'est l'armée qui établit le bilan de 11 morts et 935 évadés. Le général Falsi Kabwe, commandant de la 34e région militaire et des opérations Sokola 1 Sud, a déclaré que 8 éléments des forces de défense et de sécurité commis à la garde de cette prison ont été tués au cours de cette attaque. Selon lui, des investigations sont en cours pour identifier les auteurs de cette attaque. Dans la foulée, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a annoncé qu'un couvre-feu était instauré à partir du même dimanche, dès 18h30, sur toute l'étendue de la ville et du territoire de Beni, ainsi que de la ville voisine de Butembo. Signalons que les députés et notables de Beni, Butembo et Lubero, interrogés par Radio Okapi, craignent pour la sécurité des magistrats et des juges civils et militaires, mais aussi des populations civiles qui avaient collaboré avec la justice pour l'arrestation et la condamnation de certains bandits qui se retrouvent aujourd'hui dans la nature. Il y a près d'un mois, le bureau de coordination de la société civile de Beni au Nord Kivu avait fait un plaidoyer au gouvernement provincial pour renforcer la sécurité à la prison centrale de Kangbawi au lendemain des attaques qui avaient occasionné l'évasion des prisonniers à la prison centrale de Makala et de Kasangoulou.
Merci Jacques-Yves Molima. Je précise quand même que le gouverneur de la province du Nord Kivu a, dans la même semaine, c'est-à-dire mardi, il a allégé le couvre-feu à Beni précisément. Première question à vous, Nico Fay. Je rappelle que vous êtes journaliste et collaborateur au groupe de presse Le Monde et Top Média paraissant ici à Kinshasa. Comment vous avez compris ces nouvelles évasions?
Oui, nous devons dire ceci au Berry. Que ceci est la résultante d'une certaine incurie dans le secteur de prisons en République démocratique du Congo.
En français facile.
Et c'est-à-dire, en général, il y a c'est une légèreté et une sorte d'abandon de beaucoup des structures existantes du Congo.
Que vous imputez à qui?
Bon, en principe, c'est une responsabilité que nous incombons à l'État congolais. Parce que le maître ou bien le propriétaire de toutes les prisons du Congo, c'est l'État congolais. Et toutes les structures qui ont été léguées par l'homme blanc ont été presque abandonnées. Ceci est l'occasion pour moi de rappeler à ce que j'avais déjà dit sur d'autres plateaux, pourquoi on avait induit le chef de l'État en jetant l'argent des contribuables congolais en construisant l'hôpital du cinquantenaire qui a coûté plus de 70 millions d'euros en allant dans une dépense folle qui aujourd'hui n'a laissé aucune trace indélébile de la tenue du 14e sommet de la francophonie. Plus de 100 millions de dollars américains ont été jetés comme ça. Cet argent-là, si on avait pensé à bien agir en gouvernement responsable, responsable, on aurait peut-être évité ces dépenses inutiles.
D'accord, sans vous couper, Nico, il y a la société civile de Beni qui avait alerté déjà au lendemain de la des évasions à Kinshasa et à Kasangoulou. La société civile avait déjà alerté les autorités provinciales pour mieux sécuriser la prison de Kangbayi. Qu'est-ce qui fait que on arrive finalement à constater ces évasions dans cette prison-là?
Berry, vous m'auriez laissé, vous m'auriez donné le temps matériel suffisant d'étayer les différents mots nous rongeant.
Mais on n'a pas toujours tout le temps pour ça, c'est précis.
Malheureusement, parce qu'il y a un problème sérieux que nous devons dire dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de failles, il y a eu beaucoup de légèreté.
Toutes ces failles, si c'est toujours pour l'État, à l'endroit de l'État congolais.
Écoutez, vous devez savoir que dans beaucoup de pays du monde, ce ne sont pas les policiers qu'on ramasse ça et là qui font la sécurité de prison. Il y a la formation des gardes de services pénitentiaires qui doivent subir une formation normale. Et je ne connais pas une seule prison au Congo qui a de caméras. Or, par exemple, si on avait réfléchi foncièrement, on n'aurait dû pas jeter l'argent dans le ravin comme on avait avec le caméra qu'on avait placé ici. Et je me pose la question, lorsqu'il y a eu la manifestation du 19 septembre, est-ce que le caméra qu'on avait placé sur toutes les artères de la ville de Kinshasa avait-il servi à quelque chose? Or, si on avait réfléchi de manière responsable, cet argent-là aurait dû peut-être servir à placer les caméras.
Vous, le mal est tellement profond.
C'est-à-dire, il est tellement profond, mais il n'est pas trop tard. Il n'a jamais été trop tard.
Pour bien faire.
C'est seulement qu'il y ait une volonté volontariste de faire. Parce que tout l'argent qu'on dilapide, qu'on jette dans les futilités, cet argent-là aurait dû servir dans la reconstruction, réhabilitation, voire même délocalisation de beaucoup de prisons. Quant à l'information qui avait été donnée par la société civile, oui, je me rappelle lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre 2001 sur le détour américain.
Aux États-Unis.
La CIA avait été aussi informée. Il y a eu aussi négligence. C'est pour cette raison-là qu'on avait maintenant élargi le mandat du FBI qui, en son temps, n'opérait pas au-delà des frontières américaines. Mais depuis le 11 septembre 2001, le mandat du FBI avait été élargi. Aujourd'hui, le FBI opère jusqu'au-delà des frontières des États-Unis. C'est-à-dire, en matière de renseignement, il peut y avoir une légèreté. Mais néanmoins, ce qu'il faut insister aujourd'hui, c'est quoi? Que ce qui est arrivé aujourd'hui arrive à interpeller les autorités de Kinshasa.
Très bien.
Cette interpellation-là, et puis aujourd'hui, il y a un gouvernement, et quand bien même c'est un gouvernement d'émission qui est dirigé par Maître Bruno Tshibala, ne doit pas se limiter seulement à la tenue de l'organisation des élections et à l'amélioration des conditions. Donc, je pense que si demain ou après-demain, les mêmes évasions s'opéraient encore dans d'autres prisons. Ça doit encore interpeller.
Merci, je vous redonne la parole. Jean-Claude Bimoala, est-ce que vous partagez les avis que vient d'évoquer tout de suite là, Nico Faye?
Non, malheureusement. Pour moi, la facilité avec laquelle s'opèrent ces différentes évasions me donne l'impression d'être une opération de porte ouverte dans nos prisons.
Opération de porte ouverte, vous voulez dire?
Oui, c'est une opération
porte ouverte.
Ça signifie qu'il y a une volonté. Ça signifie qu'il y a une volonté active ou passive qui a intérêt à ce que cela se produise. Parce que regardez à Kinshasa, la prison de Makala. La prison de Makala se situe
Elle est la prison la plus hautement sécurisée.
Oui. Se situe à 2 km d'un des plus grands camps militaires de la ville de Kinshasa, qui est le camp Kokolo.
Camp Kokolo, oui.
Mais Makala a été attaqué à 2h du matin et les renforts du camp Kokolo ne sont venus qu'à 6h. Vous comprenez, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Vous prenez l'évasion de Beni, qui intervient pratiquement 3 semaines après les différentes évasions qui se sont produites,
qui se sont succédées de Kinshasa à Congo central.
Il n'y a eu aucune mesure de sécurité pour empêcher l'évasion.
Et c'est la question même qu'on se pose.
Pour empêcher l'évasion. Il y a eu, à Beni, l'évasion a eu lieu, regardez-moi le timing, exactement 24 heures après le passage de l'auditeur général des forces armées congolaises. Et ça interpelle beaucoup de gens.
Et surtout que cette évasion se passe en pleine journée.
En pleine journée, voilà, en pleine journée. Et rien n'a été fait pour l'empêcher. Pour l'empêcher. C'est vrai qu'il y a des failles au niveau sécuritaire. Nos agents commis à la sécurité de ces lieux n'ont pas la formation nécessaire. Non seulement qu'ils n'ont pas la formation nécessaire, mais pour le cas de Makala, par exemple, à ce jour-là, Makala n'a été gardé que par 60 policiers au lieu de 1000, au lieu d'une faction de 1000 et quelques.
Mais comment
60 policiers peuvent garder 10 000 ou 8 000 prisonniers? C'est incompréhensible.
Au-delà de ça, mais comment jusqu'aujourd'hui, par exemple, pour le cas de Makala et Kasangulu, aucune sanction n'est tombée?
Non, mais on sanctionne les menufretins, on sanctionne le directeur de la prison. Mais qui doit affecter le personnel de garde? Qui doit former le personnel? Qui doit les nourrir? Parce que pour la plupart des cas, nos agents, les agents qui sont affectés à ces services, meurent de faim, demandent, rançonnent le passant pour leur ouvrir les barrières, moyennant 1000 francs, 2000 francs. Mais comment est-ce que des affamés comme ça peuvent garder la prison? Dites-moi, comment des affamés comme ça peuvent garder la prison? C'est impossible.
D'accord.
C'est impossible. Regardez dans nos frontières, comment est-ce que les policiers ou les militaires de la garde républicaine, s'il vous plaît, l'unité d'élite, tendent la main à tout venant pour lui ouvrir la barrière de passage pour 1000 francs, pour 500 francs. Vous comprenez qu'on n'est pas gardé. Qu'on n'est pas gardé dans ce pays.
Et donc on n'est pas sécurisé.
Et je voulais aller plus loin. Je voudrais bien croire qu'il y a une volonté du pouvoir pour que cela se produise. Mais au pire des cas, si cela n'est pas la volonté du pouvoir et qu'il y a des gens, des groupes de bandits organisés qui peuvent déstabiliser tout un État, alors la situation est extrêmement grave, Béli.
Merci.
Ça signifie que le pays n'est pas gardé. Ça signifie que le gouvernement a perdu le contrôle de tout. Tout le monde, de n'importe quel coin où il peut se trouver, il peut opérer et produire des résultats.
D'accord.
C'est extrêmement grave.
Je vous redonne la parole. Baba Isaac Kalongé, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant basé à Mbujimayi. Vous avez entendu Nico Faye et Jean-Claude Dimoila. Est-ce que ces évasions massives sont la conséquence du dysfonctionnement de l'appareil judiciaire de notre pays?
Chers confrères, je vous ai répété la fois passée que l'émission Tribune de presse est pédagogique. Nous voulons apprendre à notre base, à notre peuple, de connaître ce qui se passe dans notre pays et leur donner le moyen de se défendre. Présentement, ce qui se passe dans les prisons, c'est comme qui dirait qui a du boira. C'est comme qui dirait les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Connaissant ce que l'impunité peut amener comme solution au problème qui se pose. Les évasions dans les prisons viennent de beaucoup de facteurs endogènes et exogènes. Endogènes, c'est le traitement des prisonniers, comment ils mangent, comment ils vivent, comment ils dorment. Exogènes, ce sont les moyens que l'État peut disponibiliser pour secourir les prisonniers qui sont dans une période de récupération, c'est-à-dire de formation patriotique pour revenir à la société. Maintenant, depuis qu'il y a des évasions à Kasangulu, à Makala, à Beni, aucune sanction n'est tombée. Comment pouvez-vous accepter que demain, quand vous apprenez qu'au Katanga il y a eu évasion, les gens s'étonnent? Non, l'État n'a pas joué son rôle. Les gouvernants doivent d'abord prendre en charge toutes les prisons, tous les prisonniers, et tous les frais irrelatifs, de manière telle que si un prisonnier est calme dans la prison, il peut être formé et préparé pour récupérer sa place dans la société. On n'envoie pas quelqu'un en prison pour mourir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, s'il y a l'impunité, toutes les entités autonomes décentralisées du pays dans lesquelles les prisons sont installées ont un conseil de sécurité, même au niveau communal. Mais ces conseils-là, lorsqu'ils ont constaté qu'il y a eu évasion, ils étudient, examinent froidement la situation et font rapport à la hiérarchie. Et si la hiérarchie ne répond pas, c'est la hiérarchie qui devient coupable de toutes les évasions et de toutes les conséquences qui peuvent découler des évasions.
C'est alors, Baba Isaac, sans vous couper, il y a certains analystes qui regrettent que le gouvernement court toujours derrière les événements au lieu de les prévenir. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est justement ça ma position. Je dis que le gouvernement laisse qui a bu boira. C'est-à-dire que quelqu'un qui a commis une bêtise aujourd'hui, le gouvernement laisse que quelqu'un d'autre commette la même bêtise pour suivre l'événement, mais au lieu de précéder l'événement. Donc, le gouvernement est entièrement responsable de ce qui se fait dans les prisons.
Merci. Alors, Nico, vous avez entendu Baba Isaac, le gouvernement est entièrement responsable de ce qui se passe dans les prisons. Et puis, il y a certains observateurs qui estiment, je crois que c'est Jean-Claude qui l'a effleuré, que les choses seraient bien planifiées par des forces obscures pour rendre le pays ingouvernable et décréter l'état du siège. Comment vous réagissez?
Oui, je crois que non, c'est
Baba Isaac.
Baba Isaac qui m'a rejoint. Moi et lui, convergeons. Mais nous divergeons partiellement avec Jean-Claude lorsqu'il a cherché à insinuer que ce serait, ce sont des montages, c'est une mascarade. Et moi, je me pose la question. En criminologie, on dit à qui profite les crimes? Si Jean-Claude estime que c'est un montage monté par Kinshasa, qu'est-ce que Kinshasa gagnerait?
Il est dans le conditionnel en tout cas.
Bien sûr, il a cherché à insinuer cela. Si Kinshasa c'est lui qui monterait cela, et pour avoir quoi et pour gagner quoi? Dans la mesure où...
C'est pour ça que beaucoup de gens disent que c'est vraiment prémédité pour créer cet état de siège.
Écoutez, lorsqu'on va créer l'état de siège profiterait Kinshasa en quoi?
On n'organiserait pas les élections.
Écoutez, qui a dit que non, lorsqu'il y a un décret et l'état de siège, et d'abord, il est délimité dans le temps. Il n'est pas éternel. Si on délimite cela, d'ailleurs, il faut mettre en tête que non, ça devient coûteux parce qu'on aura à mobiliser, à disponibiliser beaucoup de policiers et de militaires. La circulation de la police et des militaires appelle aussi à beaucoup de moyens. Moi, je pense ici, nous devons faire une analyse minutieuse, voir les mots. Ici, nous devons nous accorder que l'État a failli dans la mesure où il n'a jamais songé à réhabiliter ou bien à délocaliser les structures existantes.
Mais maintenant, qu'est-ce que l'État devrait faire pour finalement éviter ou prévenir ce genre de situation? Parce qu'on incrimine trop l'État. Qu'est-ce que l'État devrait faire?
J'en viens. Qu'est-ce que je propose? L'État doit songer à la déréhabilitation de certaines prisons et dans une autre mesure, songer aussi à la délocalisation, doter les prisons qui seront construites avec des caméras, que l'État cesse les dépenses inutiles, qu'au lieu d'aller jeter de l'argent dans les achats de caméras qu'on a placées dans les grandes artères qui n'ont servi à rien. On a vu les manifestations du 19 septembre. Je me suis posé la question. Combien ont été arrêtés sur la base de ces caméras-là? Qu'on dote au moins de nos prisons des caméras, en plus qu'on songe aussi à la formation des gardes pénitentiaires. Un policier qu'on ramasse ça et là n'est pas formé pour garder les prisons. Sous d'autres cieux, dans les pays normaux, il y a des gardes pénitentiaires qui sont formés pour cela. Et je me pose aussi la question, pourquoi on avait fermé cette école-là? Elle a existé au Congo. L'école des inspecteurs des IPJ, c'est-à-dire des inspecteurs criminels. Pourquoi on a fermé? La direction existe encore au niveau du ministère de la Justice. Pourquoi pas qu'aujourd'hui ressurgir les mêmes dossiers, songer à ce qu'on réhabite ces écoles qui ont existé. Parce que moi, je vois très mal qu'un policier qu'on a ramassé ça et là, et puis qu'il aille faire la sécurité de nos prisons.
Merci.
Et plus aussi, qu'on dote
rapidement
aussi de toutes ces prisons les miradors. Parce que pour qu'on arrive à prévenir les dangers de loin, il ne faudrait pas que les gardes soient surpris à se remettre par les assaillants.
Merci. Alors, Jean-Claude, vous avez entendu les propositions que fait Nico Faye. Vous avez entendu comment Baba Isaac a aussi chargé l'État congolais. Quelle est votre réaction par rapport à tout ça? Et surtout aussi vos propositions pour éviter ce genre de situation dans les jours à venir?
Non, les propositions que mon co-débatteur avance, c'est des propositions à long terme, dans un état tout à fait normal.
Pour construire une prison, ça doit demander un projet à long terme.
Oui, mais c'est beaucoup d'années pour former les cadres.
Pour construire.
Mais construire, ça prend quand même du temps.
Ah
c'est
bon?
Une infrastructure. Former les cadres, ça prend aussi du temps, même si c'est important. Je ne dénie pas l'importance de la construction et de la formation de cadres. Entendons-nous bien. C'est très important. Mais nous sommes
et là, vous dites que ça, c'est à long terme.
Oui, c'est
maintenant,
à long terme.
À court terme.
Nous sommes dans une situation de fait. Il y a votre maison brûle. Vous avez besoin d'un sapeur-pompier. Vous n'allez pas dire que je dois...
construire notre maison.
Non. Vous avez besoin d'un sapeur-pompier. Et là, je pense vraiment, je pense que l'opinion, une grande partie de l'opinion estime qu'il y a des bénéficiaires et des concepteurs intellectuels de ces évasions. Et là, c'est vraiment sérieux.
Donc vous êtes sur cette piste-là?
Oui, il y a des bénéficiaires et des concepteurs intellectuels de cette évasion. Et je pense que notre justice, qui vient toujours après... Quand les autres justices ont fini par s'intéresser à nos problèmes, c'est alors que notre justice surgit. Pourquoi le procureur ne se lève pas de son siège pour traiter d'un cas patent comme ça? Pourquoi? Il attend que le procureur, il attend que la justice belge s'intéresse à un citoyen congolais qui se serait évadé de la prison de Makala pour que lui se lève pour s'intéresser à la question de la prison, de l'évasion de la prison de Makala. Non.
S'il vous plaît, Berry.
Non.
C'est un débat. Je prends juste un mot dans ces minutes. 30 secondes, s'il vous plaît. La justice agit en amont ou bien en aval?
Merci, c'est la question que vous lui posez.
la justice, mais il y a eu des faits. La justice doit agir.
En amont ou bien en aval?
En aval. La justice, il y a eu des faits que tout le monde a constaté. Le procureur ne s'est pas levé pour traiter la question de la Cala. Je ne sais pas
lorsque
si
le procureur,
je ne sais pas si lui en a entendu parler. Mais le procureur s'est levé.
C'est une phase préjudicielle. Elle est supposée secrète.
Le procureur s'est levé lorsque la justice américaine s'est intéressée au cas Kankou. C'est alors que notre procureur s'est levé.
Il n'y a pas une justice américaine qui s'est servie sur l'affaire Kankou. Devons donner à mon peuple la vraie information. L'information de M. Kankou a été donnée par un quotidien américain qui se trouve être New York Times. Ce n'est pas la justice américaine. La justice américaine
Jean-Claude,
ne sait jamais
ce qui s'est passé.
Je voulais finir qu'il y a de l'avis de plusieurs personnes qui a des concepteurs et des bénéficiaires intellectuels de ces évasions. Ça profite à quelqu'un, qu'on ne se trompe pas, ça profite à quelqu'un. Et je vais être clair, ça profite passivement ou activement au pouvoir en place.
Merci. Alors, Baba Isaac, vos propositions pour qu'on évite finalement ce genre de situation dans les jours à venir?
Vous savez, je vous l'avais dit la fois passée que le chef de l'État à chercher les oiseaux rares pour relancer et faire décoller la République. Il n'en a pas trouvé. Maintenant, dans tous les secteurs sécuritaires, il y a des failles, il y a des faiblesses, il y a des signaux qui ne trompent pas, qui montrent que nombreux ne sont pas à leur poste. C'est ce qui veut dire que le chef a encore beaucoup à faire. Il faut que dans ce secteur-là, on redynamise les activités sécuritaires, qu'on fasse tout pour que tous ceux qui sont commis à ces tâches-là, à n'importe quelle prison, à l'intérieur du pays, comprennent qu'ils doivent jouer un rôle patriotique. Mais s'ils ne l'ont pas compris, comme les autres insinuent qu'il y a une main noire qui travaille pour qu'il y ait évasion, pour qu'il y ait insécurité, pour que les élections ne se tiennent pas, que sa main noire se retire, parce que le pays n'appartient à personne, ça appartient à tous les Congolais.
Merci beaucoup. Et sur cette note que nous allons passer à notre deuxième thème de la soirée qui concerne les 10 ans des commémorations de l'assassinat de Serge Maïchi. C'était le 13 juin 2007 et aujourd'hui, cette semaine, c'était le 13 juin 2017 que l'UNPC Bukavu a commémoré le 10e anniversaire de l'assassinat de Serge Maïchi par des inconnus. Le président provincial de cette structure a même déclaré que le procès de Serge Maïchi était bâclé. On écoute Darius Kibuka au micro. De Dieudonné Bagalois.
Depuis que Serge est parti, on a cru que la presse allait reculer au niveau de la province du Sud Kivu. On a cru couper un certain élan. Mais aujourd'hui, les résultats est tout le contraire parce qu'il y a des confrères qui n'hésitent plus, qui se lancent dans le métier sans peur. Le procès de Serge Maïché, c'était un procès bâclé. Il y a bon nombre qui ont qualifié ce procès de parodie de procès parce que tout ce qui était comme indice qui pouvait peut-être conduire dire, à appréhender les assassins de Serge Maheshe. Ces pistes n'ont pas été suivies et jusqu'aujourd'hui, c'est le goût de l'inachevé qui règne dans les esprits, surtout des professionnels de médias. Et encore une fois, au niveau de la province du Sud Kivu, au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Sud Kivu, nous sommes en train de demander que les assassins de Serge Maheshe soient démasqués, connus et punis conformément à la loi.
Nous écoutions là Darius Kitoka au micro de Dieudonné Bagaloua. Jean-Claude Bimoila, vous avez suivi Darius Kitoka qui estime que le procès de Serge Maheshe était bâclé et qu'il fallait reprendre carrément le procès. Qu'en pensez-vous?
Oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure à propos de notre justice. Notre justice, les citoyens congolais ont toutes les raisons de ne pas avoir confiance à la justice congolaise. Parce que elle a eu tous les temps.
Particulièrement dans notre métier, oui, de journaliste, est-ce qu'il n'y a pas moyen, et est-ce qu'on accuse aussi la presse de ne pas faire pression pour que la vérité éclate?
Non, non. Je pense que la manifestation de la vérité dans un procès et du ressort de la justice. La société civile, c'est vrai, aujourd'hui la presse se diversifie et s'organise. Je pense qu'elle peut faire facilement bloc pour une cause. Et je pense que l'idéal pour les professionnels de la presse aujourd'hui, c'est d'intégrer les grandes organisations pour qu'ils soient en mesure de faire bloc commun face à la justice ou face aux injustices que subit la profession.
Merci. Nico Ofaï, parodie de justice, a dit Darius Kitoka. Qu'en pensez-vous par rapport à l'assassinat de Serge Maheshe?
Oui, et j'ai toujours répété que le plateau doit être beaucoup plus pédagogique que politique. Serge, avant d'être journaliste, il était d'abord congolais. Il est mort congolais. Ce qui lui est arrivé, personne ne s'y attendait. C'était un crime crapuleux, lâche. Mais face à une telle situation, vous savez, il y a une différence entre la vérité sociologique et la vérité judiciaire. Lorsqu'un forfait s'est commis généralement, personne ne l'avait prévu. C'est un cas inévitable. Il peut y avoir...
Mais lorsque le président provincial de l'UNPC, Bouka, vous dit que le procès de Serge Maheshe c'est une parodie de justice, lorsqu'il dit que c'est une parodie de justice, qu'est-ce que vous en pensez personnellement?
Je ne sais pas quel contenu donne-t-il à ce qu'il entend par parodie de procès. Il peut y avoir... Vous savez, la manifestation de la vérité, les faits peuvent être commis. Mais faute par le procureur d'éprouver ou bien d'asseoir son accusation pour convaincre l'intime conviction du juge, le juge ne sera pas condamné.
Merci. Alors, Baba Isaac, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Darius Kitoka?
Non, il faut qu'ils apprennent d'abord à adresser un message à Serge en disant que son âme repose en paix. La première observation que je fais, je suis de cœur avec Serge au-delà. D'abord, l'article 14 du code professionnel d'éthique et de déontologie exige à ceux qui parlent avec moi au studio, avec vous-même, que nous soyons solidaires même dans l'au-delà. Donc joignez-vous d'abord à Serge Maheshe avant de parler. Maintenant, revenons à son assassinat ou le crime causé contre lui en tant que professionnel de médias. Je vous dis ceci, la presse est une profession noble, mais dangereuse dans la mesure où si vous ne savez pas respecter votre code vous-même, vous vous créez du tort. Et si vous respectez le code, vous dites trop de vérité, face à un régime qui est dictatorial, vous mourrez. Donc, il ne faut pas que les gens se réjouissent au studio de la fréquence de la paix en disant que Maheshe est mort, et le procès, parodie, tout ça, c'est beau. Mais quel est le sort suivant? Ça peut être son sort, ça peut être mon sort, ça peut être votre sort, vous l'animateur. Donc, regrettons ensemble, pleurons ensemble Maheshe, Mais demandons aux gouvernants de ne plus continuer à agir de la sorte, parce que nous avons des structures de régulation et d'autorégulation, régulation créée par l'État lui-même pour gérer les médias, autorégulation, l'OMEC par exemple, gérer les conflits et leur demander de respecter la déontologie et les lois du pays.
Alors Baba Isaac, je disais, on n'a plus beaucoup de temps, on va conclure par là. L'ONG Journaliste en Danger a dressé, a évalué la situation sécuritaire des journalistes sur l'ensemble du pays, et il en est ressorti que cette situation sécuritaire, elle est vraiment précaire. Comment entrevoyez-vous l'avenir du travail des journalistes dans notre pays, et ce sera aussi votre conclusion?
Non, recourons tous aux textes. Il y a des textes professionnels. Le code, la profession est codifiée. Il y a les lois, les textes légaux, il y a la constitution qui protège les journalistes. Mais personne ne veut appliquer ni l'un ni l'autre. C'est ça le dommage. Et que tout le monde recourt aux textes qui définissent les fonctions des journalistes et comment faut-il les protéger.
Merci beaucoup. Ce sera aussi votre conclusion. Comment entrevoyez-vous l'avenir du travail du journaliste en RDC, Nico Faye? Vous avez entendu Baba Isaac. À votre niveau, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je vais me répéter. Avant d'être journaliste, on est d'abord congolais. Nous avons la loi pénale et nous avons aussi la constitution. Il n'est pas du que lorsqu'on est journaliste, l'on doit bénéficier d'une protection particulière à d'autres Congolais. Tous les Congolais ont les mêmes droits et ont les mêmes obligations.
Donc, mais vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit Chivichi Wadi?
Non, s'il te plaît, je dis ceci. Est-ce que il y a une clique de gens ou bien une corporation qui doit bénéficier d'une protection particulière par rapport à d'autres Congolais? Je ne sais pas. Moi, ici, ce que nous devons dire, c'est quoi? Nous devons interpeller le gouvernement de Kinshasa de sécuriser les personnes et leurs biens. Toutes les personnes congolaises, sans exception.
En faisant quoi?
C'est-à-dire, l'on doit multiplier les contrôles policiers. On doit multiplier les patrouilles diurnes et nocturnes. Et maintenant, ça c'est un message que je lance maintenant vis-à-vis de journalistes. Les métiers de journalistes, bien sûr, c'est un métier noble, mais il faut savoir s'y prendre, parce que les propos qui sortent de notre bouche peuvent causer du tort, peuvent aussi plaire à d'autres personnes. C'est pour cela qu'il faut faire ce travail en toute impartialité, ne pas vexer beaucoup plus les gens, parce que ce que nous faisons, c'est public, mais la sécurité, elle est personnelle.
Merci, ce sera votre conclusion. Jean-Claude Bimoila, quelle est votre conclusion par rapport à cette question?
Oui, l'avenir de la profession est d'abord entre les mains des journalistes eux-mêmes. Ils doivent d'abord être professionnels, connaître son travail, très bien le faire. Mais aussi, il faut connaître les différents textes qui régissent la profession. Lorsqu'on connaît les deux, il faut se mettre tous ensemble dans la corporation pour défendre nos droits et nos acquis. On ne peut pas être journaliste et vivre en dehors de la corporation. C'est impossible. Nous devons intégrer les structures.
Donc vous êtes d'accord avec Chivis Chivoidi, oui, qui fait un état assez précaire, oui, de la sécurité des journalistes?
Tout à fait. La situation sécuritaire des journalistes au Congo n'est pas réduisante.
Et c'est sur cette...
Berry, je place un mot. Vous savez, lorsqu'on dit que non au Congo, Ghislaine Dupont et son compagnon avaient été tués où?
Son collaborateur.
Avaient été tués où?
Au Mali.
Hervé Guéquer, qui venait de décéder il n'y a pas plus longtemps que deux jours, il a passé plus de 527 jours en Afghanistan. Combien de journalistes ont été kidnappés sous d'autres cieux? Est-ce là-bas, sous d'autres cieux, n'y avait-il pas de sécurité particulière? C'est pour cela que nous devons nous interpeller nous-mêmes. Que ce que nous faisons, c'est public, mais la sécurité, elle est d'abord personnelle.
Mais
chaque métier a aussi ses risques.
La sécurité dont on parle, ce n'est pas forcément la sécurité physique, c'est la sécurité de la profession elle-même. La sécurité de la profession non. elle-même.
Et c'est sur cette note que nous allons mettre
fin. La sécurité physique aussi.
Merci beaucoup. Nous mettons fin à cette tribune de presse du vendredi 16 juin 2017. Une édition mise en onde par Héritier Sidiakala, coordonnée par Guy Maté, présentée par Abiri Franklin Luchaka, sous la supervision de Suzanne Zobo Audra. Fidèles auditeurs, merci de nous avoir suivis. Et surtout, excellente condition d'écoute des programmes de Radio Capi. Bon week-end.